Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans une heure en série pendant que la pluie s'abat sur Paris et sur une grande partie de la France. Eh bien, nous allons parler de séries télé. C'est vraiment le meilleur moment de s'installer au chaud sur son canapé devant justement une bonne série. Saison 2, épisode 29 d'une heure en série. J'espère que ce soir nos conseils seront effectivement prolixes, pour essayer de animer cette soirée un tout petit peu pluvieuse. Nous parlerons entre autres de confusion des amours et jeunesse expatriée dans We Are Who We Are. Je me suis un peu entraîné sur Stars Play. Polar rural, les jeunes filles en détresse avec la Casa Monte Perdido sur Polar Plus et My Canal.
Et enfin, criminel.
Allez-y, foutez-vous bon, criminal de guerre et justice entravée avec The Body Collector sur Sisplay.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Comme ils n'ont pas résisté, évidemment, à prendre la parole sans que je leur donne, on va quand même rappeler qu'autour de cette table, et vous avez reconnu leur voix, bien sûr, ce soir, Ariane Allard de Cosette et Positif. Bonsoir, Ariane.
Bonsoir, Xavier. Bonsoir, tout le monde.
Marianne Lévy nous a rejoint également. Bonsoir, Marianne.
Bonsoir, Xavier. Bonjour, les amis.
Et Benoît Lagane du 5-7 de Mathilde Munoz et sur Télématin également.
Bonsoir à toutes et à tous.
Au courrier cette semaine, Bénédicte Damblich souhaite remercier une de nos chroniqueuses, Isabelle Danel, qui avait recommandé Sibi Strike. Cette série est très évocatrice de la diversité londonienne avec des personnages complets et une dynamique complexe et irrésistible entre les deux héros qui avait été très bien détaillée par J.K. Rowling et Robert Galbraith et magnifiquement interprétée par les acteurs. Elle en profite de ce courrier pour nous recommander la série de la BBC Stage avec Michael Sheen et David Tennant. Et bien ce conseil, nous le suivrons dans 15 jours, puisque j'ai d'ores et déjà effectivement programmé cette série de confinement. Et puis un petit conseil, si vous êtes intéressé par le sujet, le pouvoir et l'activité politique, décryptage en série, puisque c'est l'intitulé de ces deux conférences qui auront lieu virtuellement, bien sûr en ligne depuis l'Université de Lille, un cycle de rencontres donc et d'analyse de série avec Rémi Lefebvre et Emmanuel Taïeb, qui sont l'auteur de l'ouvrage Série politique, le pouvoir entre fiction et vérité. Il y en aura une le mardi 16 entre 17 et 19 heures consacrée à la manière dont les séries reflètent et transforment la vie politique à travers entre autres Baron Noir par exemple, House of Cards. Et le 23, ce que les séries disent du genre en politique, le droit aux émotions, la famille, les préjugés. Et ils seront rejoints par Sandrine Lévesque et Clémentine Fauconnier et ils parleront de VIP et de Porgun entre autres. Voilà, il faut s'inscrire évidemment, mais le lien est disponible sur le site de l'émission. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. On commence, les amis? C'est Allez. Bon pour vous? Premier débat, We Are Who We Are, une série américano-italienne de 8 épisodes produite pour HBO et disponible en France sur Stars Play, plateforme désormais incluse dans l'offre du bouquet Canal. Nous sommes en 2016 à la veille de l'élection de Donald Trump à Chioggia en Italie et plus précisément dans la base américaine où débarque le héros Fraser et ses deux mères dont l'une prend la tête de l'unité militaire. Le temps d'un été et d'un automne, Fraser, adolescent un rien agaçant, sorte d'anti-héros qui cultive son goût pour la mode et un certain snobisme neurasthénique, va se rapprocher de la jeune Caitlin et surtout de l'ordonnance de sa mère, un soldat d'origine israélienne. Portrait d'une jeunesse insouciante, indolente qui cherche sa place dans ce petit précipité d'une Amérique lointaine, mais omniprésente, incarnée par les chaînes info, le programme des salles de cinéma et les enseignes de fast-food. Entre modèles parentaux et copains, une génération déboussolée et déracinée, en quête d'elle-même et d'ancrage, pour laquelle se posent des questions de genre, de sexualité et d'engagement, qu'ils soient patriotiques, amoureux et ou religieux.
Au fond de mon corps, là où chaque chose a un prix, j'étais un mendiant.
Pourquoi tu lis de la poésie?
Je cherche des mots qui ont du sens.
J'avais jamais embrassé personne avant. Et toi?
J'ai rencontré le commandant. Et sa femme.
Je respecterai les biens les plus précieux de notre nation. La liberté et la volonté de la défendre.
Ta mère est une légende.
C'est une extraterrestre.
J'en peux plus de passer mon temps à essayer de jouer le rôle du père et de la mère. C'est épuisant.
Et cette amitié, elle dure depuis combien de temps?
On est voisines, c'est seulement de la politesse.
Je crois qu'il croit qu'on est bizarre.
Est-ce que ça t'ennuie?
We Are Who We Are, une série créée et écrite par Paolo Giordano, auteur de l'excellent roman La solitude des nombres premiers, qui était paru au Seuil, c'était formidable, ainsi que par le cinéaste Luca Guadagnino, qui en signe la mise en scène pour mémoire, ce cinéaste qui fait ses premiers pas à la télévision, a signé pour le cinéma Amore avec Tilda Swinton, mon actrice préférée, le triomphal Call Me By Your Name, ainsi que l'inutile remake de Suspiria avec Tilda Swinton. Une série portée par Jack Dylan Grazer, que l'on a vu au cinéma dans Ça 1 et 2, Jordan Christine Simon et la géniale Chloé Sevigny, qui figurait entre autres au générique des séries The Act, Bloodline et Big Love. Une presse un peu contrastée pour Lobs. We Are Who We Are est une série volontiers perturbante qui alterne stase contemplative et éruption voyeuriste. Du côté des Darox, si Guadagnino n'est pas toujours très fin, ça c'est le moins qu'on puisse dire, il faut reconnaître qu'il touche souvent juste, parvenant à capturer l'écume de la adolescence, c'est très beau. Et enfin, le Parisien considère que Luca Guadagnino, peut-être trop fasciné par son sujet ou par son acteur principal, oublie d'embarquer le public qui reste sur la touche. Benoît, vous qui êtes le plus jeune d'entre nous, l'adolescence c'était hier pour
bien
vous.
Bien sûr.
Qu'avez-vous pensé de We Are Who We Are ?
Moi, je suis assez partagé par cette série. J'ai commencé d'abord par vraiment l'adorer. Le premier épisode, j'ai trouvé ça vraiment, il y a une lenteur très particulière, mais qui collait parfaitement au sujet.
C'est la torture italienne dans laquelle il débarque.
Voilà, parce que finalement, on a cet ado américain qui débarque avec son costume dans un autre univers de costumes. Et du coup, il y a la question de l'étrangeté, on l'entendait dans la bande-annonce sur sa mère qui est une extraterrestre. En fait, tout le monde est un peu extraterrestre par rapport à l'autre. Et je trouvais que du coup, cette façon de mettre en scène cette arrivée, là, je l'ai trouvée brillante. Même si je me dis, j'espère qu'à partir du deuxième épisode, l'intrigue va être un peu plus forte. Du coup, le deuxième épisode est parfait aussi parce qu'il est en miroir par rapport au premier. Dans le premier, on suit Fraser. Dans le second, on suit Caitlin. Et l'épisode sur Caitlin vient combler les trous de la narration du premier épisode. Et donc, à la fin de ces deuxième épisodes, j'étais enchanté et je partais le cœur vaillant pour regarder la suite en me disant, ça va être génialissime. Et à partir de là, je suis allé de déception en déception où j'ai l'impression que cette série se perd avec, certes, de grandes idées de mise en scène, et notamment dans le quatrième épisode, il y a des choses, on sent que, à la réalisation, on se fait plaisir pour créer comme ça des moments, sauf que l'intrigue de ces épisodes-là tient sur un petit quai de métro et que derrière, la série veut tellement dire et au final ne montre des choses et nous laisse, nous, en train de devoir essayer de qu'est-ce que cette série veut raconter de la place de l'Amérique dans le monde, de l'adolescence, de ce que c'est que de devoir s'engager. Et le quatrième épisode, par exemple, où on suit notamment un de ces militaires qui va partir au front et il décide de se marier juste avant de partir. En gros, l'intrigue, c'est je décide de me marier, je vais me marier, je fais la fête, et voilà. Et derrière, ça ne dit pas plus que ça. Et là, vraiment, je finis le quatrième épisode très déçu, alors que le début vraiment m'emballait.
Je suis assez d'accord avec vous. Ariane.
Oui, alors, écoutez, moi, alors, la question que pose Benoît, c'est qu'est-ce que ça veut raconter ? Je pense que c'est une série qui est sur le trouble. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, enfin, moi, j'étais pas une fan absolument transie du film Call Me By Your Name,
qui me semble, a été
quand même un petit peu surcoté. Donc, j'avançais quand même prudemment, et c'est vrai qu'on retrouve en plus les motifs du film, c'est-à-dire c'est l'Italie, c'est le passage à l'âge adulte, c'est le déracinement aussi, très important, et c'est l'été, donc la torpeur. Et moi je trouve que ça apporte quelque chose en plus par rapport à ce film. Je trouve que d'abord ça capte de façon incroyablement, mais presque organique, je trouve justement la confusion adolescente, et ça je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que ça a l'air des états de lenteur, de torpeur, et tout d'un coup de bouillonnement, de fièvre, et ça je trouve que la réalisation qui est assez sublime quand même, il faut bien le dire, qui est extrêmement ambitieuse. Je trouve que ça réussit bien. En plus, comme ça se passe sur une base militaire, donc dans un microcosme, on a le temps d'approcher les personnages et de s'attacher à chacun d'entre eux. Et puis surtout, moi, ce que je trouve très intéressant et qui au départ me freinait un peu, et en fait, je trouve que c'est très réussi, c'est que c'est une approche très contemporaine de l'adolescence. C'est-à-dire que en fait, on est surtout axé sur deux personnages, et c'est d'autant plus fort qu'ils nouent une amitié tous les deux, un garçon et une fille. Et une fille qui l'un et l'autre en plus n'ont pas forcément, ne savent pas encore très forcément qui ils sont, aussi bien du point de vue du genre que de la sexualité.
D'où le titre d'ailleurs.
Voilà, donc exactement. Donc on se dit oh là là, ouais bon d'accord, film un peu avec un discours didactique militant, pas du tout. Comme c'est un film qui aborde
ça. Non, c'est une série.
Oh, pardon, c'est une série, excusez-moi. Ben, je suis troublée, moi aussi, c'est le cas de le dire, par rapport au film. Et ben, comme c'est une série qui aborde ça par le biais de la mise en scène, et par le... en fait, on n'est pas dans le discours, on est dans l'humain et dans les personnages. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est une série. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus émouvant et plus brutal que le film qu'on a tellement encensé, justement.
Je suis assez d'accord, également, avec les limites, mais aussi avec les points positifs. Marianne.
Alors écoutez, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit mes amis.
J'adore l'hésitation.
Non, c'est parce que c'est que la vie, vraiment ou pas. Mais c'est totalement des amis, hein, vous le savez.
Hein. Allez-y, allez-y,
déclaration Marianne. D'amitié, voilà, en direct sur France Inter. Donc ça, c'est fait. Moi, ça a fait ressortir mes vieux réflexes de journaliste sportif. J'ai compté les points. Cinéma 1. Cinéma 1, série 0. We are. C'est surtout We are, la revanche du cinéma sur les séries. J'ai trouvé que c'était une revanche sublime dans la forme et émouvante dans le propos. Effectivement, cette longue errance autour de l'adolescence est super touchante. Elle est mise en scène avec délicatesse. Et puis, c'est un peu hein, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre ado sans jamais oser le demander. C'est pas du tout rassurant pour les parents, mais c'est très fort. Effectivement, il y a beaucoup de poésie dans les séances d'introspection, mais il y a aussi une forme de radicalité qui fait pencher la balance du côté du cinéma. Hein. Il y a absolument aucune gestion du... J'ai failli faire tomber ma bouteille d'eau, c'est pour
c'est
ça que je me suis interrompue.
Personne,
j'ai
pas... merci beaucoup pour ce détail.
J'ai fait un grand geste, comme ça. J'étais radicale. Donc, une absence totale de gestion du spectateur. Hein. Pourtant, la gestion du spectateur, c'est une des composantes essentiel de l'écriture sérielle. Le cinéaste italien se fout des codes. Il le dit d'ailleurs, hein, il dit « Si j'ai accepté ce projet, c'est parce qu'on m'a laissé carte blanche pour mettre de côté l'obligation de rebondissement. Le message est clair, accro au cliffhanger, passe son chemin. Ici, ce qu'on te propose, c'est de la slow fiction. Taquin, le cinéaste, fait même provoque en ouverture de l'épisode 3. Hein. Fraser, son héros, plaide pour le slow food. Il plaide aussi pour la poésie dans laquelle tous les mots comptent. Et bam, cinéma 1. Série 0, parce que je pense que là, il fustige un peu les épisodes qui sont abondants et qui ne disent rien. Radical, We Are, l'est enfin, par son absence d'intrigue. Une fois qu'on a accepté le principe d'une non-série, on dérive avec plaisir, porté par une sublime réalisation. Ah bah, je suis d'accord avec toi.
C'était We Are sur Starzplay. C'est bon, on referme le dossier pour l'heure.
I am his own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise.
I am what I am de Gloria Gaynor, donc visiblement la version maxi 45. On comprend un peu mieux pourquoi on a abandonné cette mode. Hein, voilà. I am what I am, titre phare de l'époque disco qui sent bon le short à paillettes, cher à Marianne, bien sûr, et la boule à facettes. Un titre qui fête comme nous tous, c'est 37 printemps, voilà, hein, pas plus. Pas un mois, une semaine de plus, est devenu instantanément, évidemment, l'hymne de la communauté LGBTQI+. Je suis comme je suis, chante l'affirmation joyeuse d'une sexualité différente. Aujourd'hui encore, il n'a rien perdu de sa puissance dancefloor et revendicatrice.
France Inter. Une heure en série.
C'est le moment du conseil littéraire. Énorme coup de cœur pour Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong aux éditions Gallimard. Je suis pas le seul à le dire. La presse a vraiment relayé la réussite de ce premier roman d'un poète déjà fort apprécié et récompensé outre-Atlantique et dont deux séries ont à ce jour évoqué la place qu'il occupe auprès d'une certaine jeunesse américaine. Tiny Pretty Things sur Netflix et We Are Who We Are. Ce qui est très étrange, c'est que j'avais programmé le livre avant de voir l'épisode où il est cité effectivement. Un premier récit romanesque et autobiographique en forme de lettre rédigée à l'attention de sa mère. Ce petit-fils d'une fermière vietnamienne et d'un soldat américain, fils d'une femme métisse arrivée à 2 ans aux États-Unis, raconte son enfance et son adolescence dans un pêle-mêle romanesque et cathartique, remarquablement élaboré sur un principe d'aller et retour dans plusieurs passés traumatiques. 3 violences traversent ce livre superbe. Tout d'abord, celle de la grand-mère dont la mémoire s'égare définitivement dans les tragédies endurées au Vietnam. Puis celle de la mère, véritable marâtre, qui use d'une autorité impitoyable envers son fils, et enfin celle de la naissance du désir qu'expérimente le narrateur lorsqu'il croise la route d'un autre garçon. Un récit qui mélange les époques pour souligner et remémorer tout ce qui nous construit et surtout nous déconstruit. Un roman pensé selon les mots, de l'écrivain en vietnamien, la langue de ses émotions, et rédigé en anglais, la langue qui lui permet d'analyser justement ses émotions, avec au final un style meurtri et cautérisant, après cependant porteur d'une douceur à venir, douceur de la réconciliation avec les femmes de sa vie, avec son identité d'apatride et surtout avec lui-même. Voilà, un bref instant de splendeur de Ocean Vuong aux éditions Gallimard et c'est superbe. La Casa Monte Perdido sera notre deuxième débat, une série espagnole de 8 épisodes disponible sur Polar Plus et MyCanal. Un polar rural et sauvage se déroulant dans un petit village logé dans une région forestière, un rien coupé du monde dans les Pyrénées. Village qui ne s'est jamais remis 5 ans plus tôt de la disparition de 2 fillettes dont la trace semblait à jamais perdue. Jusqu'à aujourd'hui où l'une d'entre elles est retrouvée au hasard d'un accident de la route dont elle est la seule survivante. L'enquête est relancée, les 2 policiers en charge de celle-ci, un homme expérimenté et sa jeune adjointe, plus jeune et moins stable, tentent de percer la douloureuse loi du silence qui règne chez les villageois. Secrets enfouis, défiances délétères, ancestrales légendes vont ponctuer cette investigation pleine d'opacité et d'ambiguïté.
Seguro que habéis escuchado cientos de veces esta historia. Arriba, en las montañas, todavía está él. No solo secuestraba animales, a veces también se llevaba una niña.
5 años esperando.
Hemos encontrado a Ana. ¿Dónde está Lucía?
¡Solo yo quiero a Lucía!
Hasta que se dieron cuenta que si estaba en manos del gigante, no la encontrarían nunca.
Santiago Bain, teniente de la UCO. Ella es el sargento Sara Campos.
Cuando encontremos al que se llevó a las niñas, va a doler. Ya se quedó en el agujero.
La Casa Monte Perdido, une série écrite par Luis Moya et Austin Martinez, d'après son propre roman paru aux éditions Actes Sud Noir. Une série portée par le charisme de Megan Montaner et Alain Hernandez, combien que l'on retrouvera d'ailleurs dans la 2e saison de cette série, même protagoniste mais nouvelle enquête, qui est actuellement en cours de diffusion en Espagne. Et Marianne, je sais que vous avez adoré cette série, mon petit oie me l'a dit.
Et pourtant, est-ce que votre petit doigt vous a raconté comment ça a commencé cette histoire? J'avoue que j'y suis allée un peu à reculons, Xavier, un peu comme si vous m'aviez proposé un périple entre Paris et Dunkerque en vieux cyclo. Je précise que je n'ai rien contre Dunkerque et tout contre les vieux cyclos, mais j'étais déjà énervée. Je me suis dit, voilà, on va encore dire que je suis méchante, mais je redoutais une énième série lacrymale autour de la disparition d'enfants. Grosse ficelle des auteurs de polar à la télé. Mais la critique de série, c'est aussi ça, hein, devoir composer le samedi soir avec les grosses, grosses, grosses ficelles des auteurs de polar à la télé. Et boum, je me suis totalement laissée embarquer par ce trip anxiogène dans les Pyrénées espagnoles. À la fin des deux premiers épisodes, je me suis même demandé mais comment ils ont fait pour m'avoir. La réponse est simple, les créateurs ont préparé un cocktail irrésistible. Ils connaissent leur classique sur le bout des doigts, ils signent une série hybride qui multiplie les hommages pertinents. De l'anglaise Broadchurch, ils ont retenu l'émotion d'une petite communauté, de l'américaine Homeland, une héroïne forte et fragile à la fois. Hein, Sarah Campos, une enquêtrice limite, question équilibre psychologique.
Elle a quelques défaillances, ça n'est pas faux.
Voilà, et puis voilà, et malheureusement, elle ne peut jamais mettre son short à paillettes et venir danser avec vous pour se remonter quand elle va mal. Elle nous rappelle l'excellente Claire Danes dans le rôle de Carrie Matheson, de l'agent de la CIA. Mais
est-ce qu'une héroïne, ça suffit quand même à faire une série, chère Marianne?
Oui.
C'est là la question.
La réponse est oui.
Ah oui.
Ah oui, je suis radicale.
Qu'importe que l'intrigue prenne un peu l'eau de partout et qu'elle sente un tout petit peu à la rallonge.
Non,
évidemment, ça ne vous dérange pas.
Voilà. Non, elle
d'accord,
est
non, mais très bien. Eh bien, laissons Benoît en parler maintenant.
Vous m'avez coupé en plein vol. il y a une lichette de True Detective avec un focus sur les rednecks ibériques, les exclus de la mondialisation, c'est touchant. Et surtout de somptueux plans atmosphériques sur la nature qui évoquent bien entendu le nordique noir. Mais tout ça, les auteurs le transcendent. Hein. Et finalement, la Casa Monte Perdido est si unique en son genre qu'elle marque longtemps. Je termine en disant que c'est une très belle réponse.
S'il vous plaît.
Mais c'est très important. C'est une très belle réponse à la prolifération d'adaptations loupées qui sont quand même la grosse tendance cette année à la télé.
Alors, de l'art d'accommoder les restes avec talent, Benoît Lagane.
Alors, je suis d'accord sur le point de départ, c'est-à-dire que moi aussi, ça m'a envoûté quand je suis rentré dans la Casa Monte Perdido au départ. J'ai trouvé que cette façon, par exemple, de jouer avec les légendes possibles autour de la nature, de se demander si à un moment donné, il n'y aurait pas du surnaturel, je me suis dit, ah, ça va faire du bien, surtout après l'internat dont on a parlé la semaine dernière.
Qui est dans la même région géographique.
Voilà, la même région, au moins, là, la montagne, elle est montrée autrement, et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, moi, ce qui m'a très vite embêté, en fait, avec cette Casa Monte Perdido, c'est que je trouve que ça enfile tellement de rebondissements possibles pour nous faire croire au fameux coupable qui peut être donc ce coupable. C'est forcément le type qui travaille à tel endroit, à tel autre.
Bah, c'est tout le monde. Là, voilà. Au bout d'un moment, de toute façon.
Et je trouve que c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'elle réussit à être au départ envoûtante, mais sauf que la psychologie, finalement, du personnage, par exemple, Sarah Campos, elle est très bien, effectivement, au départ. Sauf que je trouve qu'elle est juste que sa pathologie n'est là que pour essayer de faire avancer le récit, mais pas plus que ça. Et du coup, ça m'a déçu. Et je trouve que, je parlais de la montagne qui est très bien filmée, effectivement. Donc, je trouve que dans la mise en scène, c'est bien, sauf qu'elle est cruellement absente du scénario. Ben et finalement, oui, une fois qu'on l'a oublié, le paysage, on pourrait le mettre n'importe où, ça marcherait aussi. Et ça, je trouve ça dommage.
Ariane, est-ce que la montagne, ça vous gagne comme on dit?
Alors, pas du tout. Mais alors, vraiment pas. C'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé, mais pas du tout. J'ai trouvé que c'était une série hybride, pour reprendre l'expression de Marianne, ça, je suis tout à fait d'accord.
Ibérique et hybride.
Voilà, mais surtout très mimétique et sous influence totalement, et en moins bien. Et puis surtout, petit à petit, elle devient invraisemblable, et puis ennuyeuse, et puis pour finir, assez déplaisante. Alors, je vais vous donner juste deux exemples. La première chose, c'est les acteurs. Vous parliez de charisme, Xavier, excusez-moi. Ils sont monotones, monocordes. Ils ont à peu près deux expressions en tout et pour tout dans leur registre. Soit ils sont fâchés, soit ils sont graves. Et en général, ils sont graves fâchés, on ne sait pas pourquoi.
Pardon, rien.
Donc,
mais c'est les mieux du casting. Il y a des très mauvais acteurs et très mauvais.
C'est très mauvais. Mais ouais, je trouve ça très mauvais.
C'est ceux qui s'en tirent à peu près le mieux.
Ouais,
deuxième point.
Alors, le deuxième point, c'est la vraisemblance des situations. Il y a une jeune fille qui ressort des tréfonds de la terre, puisqu'il faut quand même dire qu'il y a deux jeunes filles qui ont été kidnappées. Elle sort en gros de l'enfer. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas un médecin, pas un psy, pas un aidant pour l'assister. En revanche, il y a des flics suspicieux. Il y a des parents minables qui n'arrêtent pas de se chamailler parce qu'il y en a un qui est parti et l'autre qui a un amant. Et puis, il y a des voisins qui attendent qu'une chose, c'est qu'elle révèle la vérité. La seule chose qui nous désigne, en fait, qu'elle est malade, c'est qu'elle est sortie de ça avec ses longs cheveux tout frisés et que du jour au lendemain, elle a les cheveux complètement courts, comme si elle sortait de chimio. Moi, j'ai trouvé ça insupportable parce que ça veut dire qu'il y a quand même une façon d'appréhender les personnages qui est hyper caricaturale. Pour terminer, parce que ça, c'est vraiment important, ça raconte quoi quand même? Ça raconte quand même l'histoire de deux gamines qui ont été kidnappées par un pédophile. Pas une seule fois, mais pas une seule fois, le terme n'est employé. C'est-à-dire que ce côté surnaturel, mystérieux, machin, bidule, en fait, c'est une façon quand même très focus d'être de contourner la vraie histoire et le vrai problème, qui est quand même un pédocriminel qui a enlevé deux gamines, dont une, en plus, il y a une relation incestueuse qui se noue. Je trouve ça vraiment pas bien. Et je trouve ça, moi, ça, au départ, je faisais pas attention. Et à un moment donné, ça m'a mise en colère. Je trouve que cette série est artificieuse et finalement assez focus.
Marianne, vous avez 20 secondes pour répondre à Ariane.
Ouais, on n'a pas regardé la même série.
Non, mais c'est une bonne réponse.
Voilà, c'était donc la Casa Monte Perdido que vous pouvez voir sur Polar Plus et sur MyCanal.
Para agradecer lo extraño de simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Cuando todo va cambiando de color y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde son? A la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde son? Estamos y me porque.
El Invento de José González, fils d'expatrié argentin, ce chanteur suédois chante pour la première fois dans la langue de ses origines, un titre en apesanteur. Superbe cascade mélancolique et folk qui rompt un silence de 5 ans. Superbe retour en grâce pour ce beau brun barbu. Ça devrait vous plaire, Ariane.
Ah
je
oui,
connais
je...
un peu vos goûts.
Oui, allez voir.
Qui sans renier son style musical, touche à quelque chose d'encore plus personnel et d'encore plus poignant.
France Inter. Une heure en série.
C'est l'heure et le moment tant attendu de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité est racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Alors la semaine dernière, vous nous révéliez ce que faisait Nicolas Sarkozy au moment où il apprenait sa mise en examen, et vous continuez à scruter les habitudes sérielles de nos hommes politiques et de nos présidents.
Oui, là c'est la visite d'Emmanuel Macron à Toulouse pour assister à un exercice militaire dans l'espace qui m'a inspiré. Il faut dire que s'il y a bien un sujet qui a été investi par les séries depuis plusieurs décennies, c'est celui de la conquête spatiale et de la guerre des étoiles, où l'humanité imagine des héros protégeant la Terre depuis l'espace. Alors, quand j'ai appris qu'Emmanuel Macron se rendait au CNES à Toulouse pour assister à la première européenne et française d'une simulation militaire dans l'espace intitulée Astérix, alors en clin d'œil au héros de Goscinny, hein, certes, mais surtout en clin d'œil au premier satellite français envoyé dans l'espace qui avait été baptisé du nom du héros dessiné à Astérix. Pour info, Astérix, l'exercice militaire de cette fin de semaine, ne s'écrit pas comme le nom du héros gaulois, mais Aster et plus loin X, un peu comme... Bomber X.
Qu'est-ce que vous avez l'idée de dire?
Oui, Bomber X. Dans l'espace sidéral, à la vie spatiale, surgit d'un grand trou noir entre les étoiles. Ben oui, c'est qui? Bomber X. Une série japonaise avec des marionnettes, un peu comme dans les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Vous connaissez bien ça, Xavier. C'était une série diffusée à la télé française durant la petite enfance d'Emmanuel Macron. Il n'avait que 6 ans à l'époque et cette série racontait comment les humains du bureau de la défense terrienne faisaient appel au docteur Ben, concepteur du bombardier X, d'où Bomber plus loin X, un croiseur de combat. Bon, avec Aster plus loin X... C'est moins fantaisiste. Hein. C'est une 60aine de militaires qui testent cette semaine donc les capacités de riposte de la France en cas d'attaque contre un de ses satellites. L'idée de cet exercice, qui est de simuler virtuellement plusieurs scénarios de crise, comme par exemple l'espionnage potentiel par une puissance étrangère d'un satellite stratégique de la France. Ce n'est pas une surprise en fait, parce qu'Emmanuel Macron avait d'ailleurs annoncé la création d'un commandement militaire de l'espace, de quoi inspirer à la télé française, qui aime bien les remakes que vous avez notés en ce moment, une nouvelle série spatiale qui pourrait s'appeler la 7e compagnie dans les étoiles.
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace.
Vous imaginez Xavier, Emmanuel Macron en capitaine Kirk et Jean Castex dans le rôle de Spock, Roselyne Bachelot dans celui du lieutenant Uhura, envoyé à des années de lumière, ça en ferait rêver plus d'un.
Oui, effectivement, j'imagine et je vais essayer de nettoyer mon imagination juste en sortant de l'émission. Mais Emmanuel Macron, CNES, hier, ça vous a surtout fait penser, oui, un petit peu plus sérieuse quand même, à une uchronie disponible sur Apple TV et qui s'amuse de l'histoire géopolitique spatiale.
Exactement, For All Mankind, une série qui réinvente l'histoire en partant du postulat que l'Amérique a loupé le coche du premier pas sur la Lune et que ce sont les Russes qui ont fait le grand pas pour l'humanité, enfin pour le journal surtout j'imagine, et obligent du coup les Américains à faire encore plus fort, envoyer des femmes et un équipage multiethnique sur une base lunaire dès les années 70. Et dans l'épisode 8 de la saison 1, un astronaute américain est obligé d'espionner les Russes présents aussi sur le caillou et de découvrir qu'il est espionné en retour. L'occasion surtout de voir que confrontés à l'inconnu et à la dureté d'un voyage spatial, les astronautes et les cosmonautes sont tous dans la même galère. Bref, que la guéguerre terre à terre de ceux qui les gouvernent dans l'espace comme sur Terre, ben ça les dépasse. Et dans la saison 2, pour se protéger de cosmonautes soviétiques, il est même question de militariser la Lune et d'envoyer peut-être des Marines et des armes sur la Lune afin de protéger les astronautes et une mine exploitée par les États-Unis d'Amérique. Cette saison 2 vient d'ailleurs de démarrer sur Apple TV et elle résonne bien avec l'actu du moment. Sur le plan esthétique, elle est aussi magnifique. Si j'ai le temps, allez, je vous en dirai deux mots dans le plateau télé à suivre.
Oui, si vous ne chantez pas. Merci beaucoup Benoît. L'effet miroir, une chronique en musique à réécouter en podcast ou en rediffusion. Vraiment, alors là, cette nuit, entre 2h et 3h du matin, se passer en boucle comme ça, le générique de Bomber X réinterprété par Benoît Lagane, c'est culte. Vous êtes bien sur France Inter dans une heure en série avec ce soir Ariane Allard, Marianne Lévy et Benoît Lagane, ils sont en très grande forme. Continuons de voir si vous allez la garder, cette forme, pour le troisième débat. The Body Collector, une série néerlandaise, disponible sur 6play, autrement dit le site de replay de M6. Petite explication, M6, à l'instar d'autres chaînes comme Arte ou France Télévisions, a également choisi de prolonger son offre en série télévisée en mettant à disposition sur son site de replay, donc gratuitement, des séries inédites sur son antenne. Et parmi celles-ci, vous pourrez trouver Il s'appelait Mandela ou encore Black Box. Mais ce soir, nous allons débattre de The Body Collector, une série de 3 épisodes inspirée de faits réels et qui relate dans les années 70, le procès qui fut intenté contre Peter Menten, un marchand d'art réputé accusé d'avoir été un membre actif des SS et d'être responsable de la centaine de morts de juifs, de la mort de centaines de juifs. Vous aviez, pardon, remis tout cela dans le bon ordre. Extermination de masse doublée de la spoliation des biens de ses victimes, un scandale révélé grâce à la pugnacité de Hans Knoop, un journaliste d'investigation, un homme de pure droiture qui devait découvrir rapidement qu'il avait face à lui un salaud sans scrupules, doté d'un fort sentiment d'impunité, souvent dénoncé pour ses crimes, mais ayant toujours réussi jusque-là à échapper à la justice.
Monsieur Knoop, je vous ai téléphoné au moins 10 fois.
Vous n'aviez pas besoin que je réponde, a priori.
Est-ce que vous avez lu ça?
Les collectionneurs néerlandais sont une espèce en voie de disparition.
Peter Menten, multimillionnaire, va mettre une partie de sa collection en vente. Et tous ces objets ont été volés à des juifs de Pologne.
Qui vous l'a dit ?
Un journaliste de Tel Aviv. Raviv Kanaan. Il travaille au Haaretz. C'est son téléphone.
Vous avez appelé Rick Van Effen ? Cet article est de lui.
C'est juste un photographe. Ça ne m'intéresse pas.
Mais c'est son article. Je ne peux pas l'exploiter.
Monsieur Knoop, ça nous concerne tous les deux personnellement.
Vous êtes sûr ?
J'en suis plus que certaine. Appelez-le. Aujourd'hui.
The Body Collector, une série écrite par Robert Jan Overeem, Jan Arm Dekker, ainsi que Hans Knoop, qui donc a donc signé un livre à l'issue de cette enquête. Et ce livre a servi de base à l'adaptation sérielle, avec dans les rôles principaux Guy Clémence et Aos Greidamus. The Body Collector, Ariane.
Alors, bon, pour faire très court, pour commencer, c'est à peu près à l'exact opposé de We Are Who We Are. C'est-à-dire que c'est, sur le fond comme sur la forme, c'est vraiment une série, je dirais, de la facture très classique.
Ah oui, oui.
On ne peut pas dire que la mise en scène fasse preuve d'une grande inventivité, c'est très narratif. On sent en plus qu'il n'y a eu pas forcément beaucoup de moyens. Je parle des flashbacks que je trouve un petit peu empesés, et puis on sent qu'il n'y a pas assez de figurants, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Mais néanmoins, au-delà de ces maladresses, d'une certaine forme de complaisance, si je dois dire, parce que c'est quand même l'adaptation du bouquin du journaliste, donc il a un regard assez aimable sur lui-même, je trouve, quand
évidemment,
même. Hein,
ouais, voilà. On est bon. D'accord, c'est un problème.
Mais néanmoins, je trouve que c'est un éclairage intéressant, vraiment, sur un épisode que moi, personnellement, je ne connaissais pas en Hollande, mais bien sûr qui renvoie à des choses que ont évidemment existé aussi en France, qui n'ont pas forcément d'ailleurs fait le sujet d'une série ou d'un film, c'est-à-dire la spoliation des biens des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment dans tout ce qui concerne l'art et le marché de l'art. Spoliation qui en plus débouche sur un massacre, hein, quand même, faut quand même le dire. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est un enjeu finalement qui est à la fois très local, ça raconte une histoire vraie qui est hollandaise et en même temps totalement universelle. Et je trouve que même au-delà de son contexte historique, c'est une série qui rappelle combien les démocraties, hein, savent s'accommoder de ce genre de secrets, de ce genre d'exactions sombres, hier comme aujourd'hui d'ailleurs, histoire de ne pas trop se remettre en question. Parce que finalement, le journaliste va aller jusqu'au bout de son enquête, va révéler, il y aura un procès, etc. Mais lui perd son job quand même. Hein. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que mine de rien, ça donne c'est une croisade hein, qu'il mène, le personnage est un peu monolithique, hyper déterminé et tout, mais en même temps, il est assez sacrificiel aussi, et je trouve ça très intéressant. Enfin, pour moi, finalement, au-delà de la forme que je trouve quand même, encore une fois, maladroite, scolaire, enfin bon, etc. Pas très affriolante, on va dire, hein, quand même. Je trouve que c'est quand même un très bel hommage, d'abord au journalisme en particulier, et surtout au contre-pouvoir et à la nécessité de contre-pouvoir, quelle que soit la forme. C'est-à-dire, là, on est dans une démocratie. Et je pense que c'est aussi important que, bien sûr, dans des dictatures comme celles qui ont été perpétrées par les nazis. Voilà.
Merci beaucoup, Marianne.
On n'a pas vu la même série non plus.
Voilà.
c'est notre soir, on n'a pas vu la même chose. Alors moi, rater une série, je trouve ça jamais glorieux, mais rater une série sur la Shoah, je trouve que c'est une lourde responsabilité.
C'est pas sur la Shoah.
C'est autour de la Shoah.
C'est la poursuite des criminels nazis qui ont échappé aux purges du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et dont certains ont fait non seulement fortune, mais ont gardé pignon sur rue, voire même une certaine influence sociale.
Oui, mais cette poursuite, elle est consécutive à la Shoah. Il y a énormément de scènes
ça n'est pas une série sur la Shoah,
mais en tout cas,
mais sur ses conséquences.
Sur ses conséquences, et puis il y a quand même ces scènes qui illustrent cette partie de l'histoire.
Oui, c'est flashback, d'accord, c'est retour en arrière.
Donc, je trouve que c'est une lourde responsabilité. Moi, j'ai pas envie de m'attarder sur la réalisation façon téléfilm indigent du samedi soir. J'ai envie de réfléchir à la question qu'elle nous pose, cette série, parce qu'elle nous pose une question, elle la pose de manière involontaire, mais elle la pose avec force. Quelle forme pour dire l'histoire ? Histoire avec un grand H, fiction ou documentaire. Plus précisément, ce qu'elle oppose, pour moi, c'est le pouvoir de la fiction à celui du documentaire. Adopter la forme documentaire, c'est risquer de ne pas toucher le plus grand nombre. Mais toucher le plus grand nombre, à l'heure où la mémoire s'efface et les témoins disparaissent, ça me paraît assez urgent. Alors évidemment, pour y parvenir, il faut savoir maîtriser l'art de l'écriture de l'émotion. Là, l'écriture est simpliste. Hein. Donc, The Body Collector, elle prive la fiction de tout son pouvoir. Elle rate ce que l'épisode Why We Fight de l'excellente série Band of Brothers avait réussi. Il était question de la libération d'un camp de concentration par l'armée américaine. Et je pense à ces scènes de flashback qui sont indigentes qui sont extrêmement problématiques du point de vue de la représentation et du point de vue de la responsabilité de l'auteur. Pourtant, Band of Brothers, c'est également tiré d'une histoire vraie. Mais contrairement à The Body Collector, elle était à la hauteur du devoir de mémoire. Et je trouve que c'est un vrai problème, cette série.
Mais Ariel a quand même raison. Cette série, on est tous d'accord sur ses, et conscients de ses limites et de ses lacunes, pose la question sur comment ces salauds, éminemment reconnus comme tels, connus comme tels, ont réussi à s'en sortir se démêler quand même des fils de la justice qui ne pouvaient rien contre eux.
C'est l'après.
On le savait, bien évidemment, mais l'après est quand même extrêmement inquiétant et je ne pense pas qu'on ait complètement réussi à purger.
Oui, mais il y a la double temporalité. Et la temporalité qui se passe pendant la guerre, elle est pas du tout à la hauteur
mais je pense
de ce qu'elle doit représenter.
Hein,
et du coup, c'est vraiment problématique.
Benoît. Oui, je suis d'accord avec cette idée-là sur le fait que le passé est mal reconstitué. À la fois, plus la série avance, moins c'est présent, au fond. Et donc, c'est pour ça que ça devient intéressant. Moi, je suis assez d'accord, globalement, avec vos deux points de vue. Je pense quand même, je suis plus quand même du côté d'Ariane. C'est-à-dire que je trouve que le sujet, on le connaît pas assez bien, il est pas assez traité, que du coup, en ce sens, la mini-série est intéressante. Le problème que moi, je pointe, et c'est peut-être pour ça que, Marianne, tu as des réserves, c'est qu'en réalité, c'est le problème de la mini-série en trois épisodes. C'est-à-dire que la mini-série en trois épisodes, elle est bien faite dans le sens où, premier épisode, découverte de l'affaire, l'enquête, deuxième épisode, procès, troisième épisode. Grosso modo, c'est comme ça que c'est structuré. Sauf qu'en fait, là, il y avait matière à faire une longue série. C'est-à-dire, pourquoi la longue série aurait permis d'éviter de tomber dans les pièges. C'est-à-dire que non seulement on aurait raconté peut-être autre chose aussi que juste cette enquête de ce journalisme, du coup, le journalisme aurait été montré beaucoup plus autrement dans ses failles, le personnage aurait été moins monolithique, tout aurait été beaucoup plus construit. Or, le problème, c'est que la rapidité du récit, finalement, en trois épisodes, fait que du coup, soit on est brillant, et on le fait de façon exceptionnelle, et ça marche à tous les coups, et on tombe pas dans les pièges, soit on fait comme cette série, c'est-à-dire que c'est efficace, on apprend des choses, mais effectivement, on en sort un petit peu déçu de ce que ça pourrait être. Enfin, moi, je suis sorti déçu en me disant, ah bon, que trois épisodes pour traiter de ce sujet, ben, c'est peut-être pas assez. Quand on fait de la série, on assume de faire de la série.
On est d'accord. Et en même temps, je trouve qu'elle pose deux, trois questions qui ne sont pas intéressantes. Le fait qu'il soit de confession juive, par exemple, lui est reproché, comme s'il était, entre guillemets, partisan, ce qui est absolument odieux. Et le fait qu'il aille enquêter en Union soviétique, nous sommes en pleine guerre froide, là aussi, dédouane un tout petit peu son enquête, puisqu'en gros, il s'est fait manipuler pour les gens depuis les Pays-Bas par l'Union soviétique et par les espions soviétiques de l'époque. Donc je trouve que, je suis d'accord avec vous, il y a une sécheresse du trait qui malheureusement manque d'étoffe, manque de romanesque. Il y a un problème sur les constitutions, ça ne nous le cachons pas. Mais en même temps, je trouve que certaines questions peu traitées, d'ailleurs, existent.
Vous auriez dû l'écrire. Je pense que si vous l'aviez écrit, Xavier, tel que vous en parlez, ça aurait été mille fois plus réussi que cette espèce de truc qui est en plus ultra mal joué. Tout est monolithique. Ils ont deux expressions, voilà, pour reprendre l'expression d'Ariane.
Je ne suis pas sûr, mais merci beaucoup. J'adore la flagornerie. The Body Collector sur Sisplay.
n'est plus mon problème. Non, tu ne me sauveras pas. Je ne suis plus ton problème. Non, nous étions dans l'embarras. C'était tout un dilemme. Avec nos morts et nos vies sur les bras. Amen et auf Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème.
Auf Wiedersehen de Mansfield Tia, extrait de Monument Ordinaire, cinquième album du duo formé par Rebecca Warrior et Carla Pallone, un album sorti le 19 février, une pop rythmique et cristalline très 80 dans ses aigus pour cet hymne queer dégenré et un rien dérangé. Mention spéciale pour le clip de Nicolas Mehdi qui, entre Derek Jarman, le cinéma de sabre chinois et un zeste de Mylène Farmer, bien sûr, parachève la réussite de ce titre fiévreux.
France Inter, une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé. Et Ariane, vous commencez avec The Cry sur la chaîne, la plateforme Salto.
Exactement, Xavier. Et The Cry est certainement l'un des thrillers les plus prenants qu'il m'ait été donné de voir depuis longtemps. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le suspense s'installe très vite et brutalement dès la disparition d'un bébé, Noah, 4 mois, qui se volatilise littéralement un soir dans une petite ville côtière australienne. Aucune rançon n'est demandée. Personne, pas plus la police que la famille, ne parvient à le retrouver. Donc évidemment, la première question qu'on se pose et que tout le monde se pose, c'est qui l'a enlevé et pourquoi ? Serait-ce la mère, Johanna, une jeune institutrice qui est épuisée par les pleurs incessants de son nourrisson, d'où le titre en véro « The Cry » ou serait-ce le père, Alistair, un communicant aux dents longues doucereusement autoritaire, ou serait-ce son ex-épouse, délaissée, inquiète, un peu plus âgée bien sûr, et jalouse. La seule chose dont on est sûr dans ce magma et ces questions chaotiques, c'est que l'union de Johanna et d'Alistair se délite sous les yeux des médias, hypnotisés par ce fait divers mystérieux. Bref, vous l'avez compris, si cette mini-série est aussi réussie, à mon sens, c'est bien sûr parce que son récit est haletant et déstructuré à souhait, mais surtout parce qu'il s'attaque à un sujet tabou, à savoir la difficulté pour certaines femmes d'être mères. Donc, incidemment, c'est bien le regard normatif que la société porte sur la maternité qui est ici scruté, sondé, interrogé, malmené. C'est quoi être une bonne mère ? C'est ça la vraie question posée par ce thriller, écrit et créé par une femme, Jacqueline Perske. Moi, je pense que c'est une œuvre extrêmement puissante et d'autant plus qu'elle est irradiée en plus par le soleil vertical éblouissant de la côte australienne et par l'interprétation de ces interprètes qui sont tous remarquables, des seconds rôles au premier rôle.
The Cry sur Salto. Marianne, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, oui, lors d'une de vos interventions, Band of Brothers sur OCS.
Oui, parce que j'avais envie de parler, de mettre à l'honneur une série qui sait dire l'histoire et parce que je ne voulais pas rester voilà, sur cette impression de body color. J'avais envie de vous en dire un peu plus sur Band of Brothers. C'est aussi tiré d'un livre et c'est aussi basé sur la mémoire. Ça commence à la veille du débarquement en Normandie et ça nous emmène jusqu'à Berlin. C'est notamment produit par Tom Hanks et Steven Spielberg pour HBO. C'est une mini-série en 10 épisodes qui raconte le quotidien de la Easy Company, une compagnie de parachutistes américains, de son entraînement en Angleterre jusqu'à la fin de la guerre. Pourquoi on regarderait une histoire qu'on a déjà l'impression de connaître, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de fiction sur cette période de l'histoire. Parce que c'est une histoire de fraternité, qu'elle traite de deux choses fondamentales, ce que les hommes font à la guerre et ce que la guerre fait aux hommes. L'écriture est brillante, la réalisation est à sa hauteur et l'ensemble des comédiens est vraiment formidable, notamment un qui est bien connu des sériphiles, Damien Lewis. Mmh. Elle nous embarque dans un récit qui est puissamment humain. On peut vraiment la voir, c'est magnifique.
Eh bien, merci beaucoup pour cet excellent conseil. On rappelle Band of Brothers sur OCS. Et cher Benoît, il vous reste un petit peu de temps pour revenir sur la deuxième saison donc de For All Mankind sur Apple TV.
Oui, et je ne vais pas chanter, je vous rassure. Donc, petit rappel.
Il nous reste 3 auditeurs et si on les gardait, il reste 5 minutes.
Alors, donc voilà, cette série qui, je trouve, réinvente complètement l'histoire de la conquête spatiale américaine, donc en imaginant que, du fait, c'est les Russes qui ont mis pour la première fois le pied sur la Lune. Du coup, ça entraîne des rebondissements. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est ce que faisait déjà la saison 1, c'est de raconter que tout ça est chamboulé, mais ça précipite en fait la conquête spatiale dans les années 70. Ça oblige à des personnages qu'on n'a pas vus dans l'histoire aller dans l'espace et sur la Lune y aller. Donc ça, c'était intéressant. Mais le contexte politique reste le même. C'est-à-dire que c'est toujours la guerre froide. La série s'était terminée, on était dans les années 70. La saison 1, la première saison. La saison 2 démarre dans les années 80, 9 ans plus tard. C'est Reagan qui est au pouvoir, alors qu'avant c'était Nixon. On reste donc avec des présidents républicains, et ça c'est intéressant dans le contexte actuel. Et la série commence, et c'est pour ça qu'il faut déjà la voir, cette saison 2, esthétiquement par un lever de soleil sur la Lune. Et rarement une série de science-fiction nous envoyant dans l'espace a réussi, je trouve, cette façon de nous faire vivre avec les personnages ce que c'est que de partir dans l'espace. Et pour ceux qui seraient réticents en se disant « je vais pas me retaper une série dans l'espace parce que j'en ai marre », c'est une série d'abord sur l'humain, c'est d'abord une série sur ces personnages, sur l'humanité en fait de ces astronautes qui partent ou qui ne restent à terre, et je trouve extrêmement bouleversant dans leur rapport entre père, mère, femme, enfant, divorcée, lesbienne, enfin tout ça est traité, c'est magnifique, c'est touchant, c'est beau, et on pleure souvent, et il y a une bande-son, alors c'était la bande-son des années 70 en saison 1, là c'est la bande-son des années 80, à ravir tous ceux qui aiment cette période.
For All Mankind, la saison 1, et désormais la saison 2, sur Apple TV. Une heure en série, c'est fini. Mais ouais, je sais, je vous quitte à regret. Mille merci à vous, chère Ariane, chère Marianne et cher Benoît, bien sûr, d'y avoir participé. Et merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté et d'avoir enduré la partition musicale de Benoît qui s'est cru dans The Voice. Mais c'est je samedi. Crois que personne ne s'est retourné. Voilà. Et là, donc, il va rentrer chez lui. Nous vous avons recommandé cette semaine ou pas We Are Who We Are sur Starzplay, La Casa Montepaldino sur Polar Plus et My Canal, et The Body Collector sur 6 Play. La semaine prochaine, nous évoquerons pour moi une des meilleures séries de l'année, It's a Sin sur Canal Plus, le
formidable.
Truc larmoyant
formidable.
Avec des mouchoirs qui raconte Londres dans les années 80 au moment où le sida débarque, et Le Prix de la Paix sur Arte, une série suisse. Rendez-vous demain soir à 20h avec Jérôme Garcin et toute sa chouette bande de critiques littéraires pour une émission donc consacrée à cette actualité. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, bien sûr, en rediffusion dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h du matin. Il y a un site internet avec évidemment le programme au complet. Vous pouvez nous envoyer du courrier réalisé une fois de plus, une fois encore, mais jamais une fois trop par Marie-Annick Rimbaud qui, depuis que vous chantez, veut se faire porter pâle. Merci beaucoup Benoît.
C'est même pas
qu'allons-nous faire sans elle. La programmation musicale était assurée par Muriel Pérez, sauf votre intervention. Préparez cette émission avec Amel Caldi, bien sûr. Et à la technique ce soir, nous avions Fabrice Desmaz.